des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui,
Christophe Rameau, maître de conférence à l'Université de Paris 1.
Pour la deuxième semaine. Le technicien dormait un peu. Alors, la semaine dernière, on avait parlé de l'état social qui s'était mis en place, notamment à la fin de la guerre, si j'ai bien compris. Y a un truc qui m'étonne un petit peu, c'est que j'arrive pas bien à comprendre quel lien on pourrait faire entre la déliquescence de cet état social, justement, et la hausse du chômage. Est-ce qu'il y a une concomitance, un lien de cause à effet entre les deux?
Bah, tout d'abord, déliquescence, le mot est un peu fort, hein, parce qu'il y a quand même de beaux restes, hein, et je pense qu'il ne faut pas se mettre dans la tête que l'état social a disparu. Il y a quand même de très très beaux restes, et je fais partie de ceux qui considèrent, y compris l'avenir est de ce côté-là. Bon, donc on ne parle pas de zéro. Alors sur le chômage, bah, bien sûr qu'il y a un lien. Il y a un lien dans les deux sens, en fait. C'est-à-dire que la montée du chômage, bien entendu, comme toujours, hein, c'est l'armée de réserve à la Marx. C'est-à-dire que le chômage est un fantastique instrument pour discipliner les âmes et les corps, et donc pour en rabattre sur les droits sociaux. Donc, bien entendu, la montée du chômage a permis, a servi d'instrument de ce point de vue-là à tous ceux qui veulent en rabattre sur l'état social. Mais peut-être que le plus intéressant, c'est aussi voir dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est de voir comment l'état social a traité la question du chômage. Parce que, comment dire, ce qu'on peut dire, c'est que le chômage, si vous voulez, historiquement, il est inventé, si l'on peut dire, à la fin du 19e. Jusqu'à la fin du 19e, on ne parle pas vraiment de chômeurs. Il y a comme catégorie les travailleurs qui chôment de temps en temps. Le fait de chômer, c'est un attribut du travail, en quelque sorte. C'est les saisons agricoles, notamment. Il y a les handicapés, mais qui doivent faire la preuve de leur handicap pour pouvoir bénéficier de la bienfaisance privée ou publique, même. Et puis, il y a une autre figure qui est les vagabonds. Les vagabonds, c'est-à-dire ceux, une figure qui hante le Moyen-Âge et qui hante encore la société libérale au 19e siècle, c'est la figure de ceux qui peuvent travailler mais qui veulent pas travailler, qui donc sont pourchassés. Et à la fin du 19e, il y a un bouleversement complet dans les représentations. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, vous avez bien compris. Mais il y a un bouleversement complet, c'est-à-dire que la société capitaliste, elle reconnaît qu'elle est susceptible de générer du chômage. Et c'est une vraie révolution, ça aussi. Pourquoi? Parce que c'est la reconnaissance par le capitalisme d'un défaut d'organisation sociale, d'une faute, en quelque sorte, qui est très lourde. Ça veut dire que le capitalisme reconnaît qu'il peut, pas forcément en permanence, il n'y a pas toujours du chômage dans le capitalisme, mais qu'il peut au moins régulièrement provoquer, générer du chômage. Et c'est une faute, c'est la reconnaissance d'une faute qui est colossale, parce que si on y réfléchit bien, le chômage, c'est quand même les défenseurs du capitalisme ne parlent toujours en termes d'efficacité, mais il faut les prendre sur ce terrain de l'efficacité. Le chômage, c'est un gaspillage colossal. Ça signifie qu'il y a des personnes qui veulent contribuer à la création de richesses et à qui le système interdit de participer à cette création. C'est un gaspillage colossal. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le capitalisme, je viens de vous dire, à la fin du 19e, a accepté de reconnaître la question du chômage. Mais en fait, si on y réfléchit bien, il a fallu attendre 60 ans, 1958, pour que de cette reconnaissance du chômage, on passe à l'indemnisation du chômage, la création de l'UNEDIC. Et puis, surtout, ce qu'on peut, comment dire, ajouter, c'est que régulièrement, et on est en plein dedans, régulièrement, il y a des défenseurs du système qui défendent, qui présentent des thèses qui aboutissent en fait à nier l'existence du chômage.
Mais quand vous dites que c'est le système qui crée du chômage, moi parfois, toujours en lisant les journaux, j'entends dire quasiment que ce sont les chômeurs qui ne veulent pas travailler.
Bah justement, on est exactement dans cette problématique de négation du chômage. Le chômage, par définition, c'est une responsabilité sociale. Par définition. Et chômeur, celui qui est sans emploi, qui recherche un emploi, qui est disponible pour occuper un emploi, mais qui ne trouve pas d'emploi parce que le système n'est pas en mesure de lui donner un emploi. Ça, c'est la reconnaissance du chômage à la fin du 19e. Et donc, tous les discours qui disent « mais les chômeurs ne veulent pas travailler », c'est des discours qui nient l'existence même du chômage. C'est des discours qui en reviennent au registre libéral du 19e, qui est l'idée que s'il y a des gens qui n'ont pas de travail, c'est parce qu'ils le veulent bien. Donc c'est là, pour le coup, on est en présence d'une vraie régression. Alors on parle plus de vagabonds. Au 19e siècle, on parlait de vagabonds. Maintenant, on fait plus avant, on parle de trappe à inactivité. Mais c'est exactement la même chose. Hein, ceux qui n'ont de cesse de pointer les fameuses trappes à inactivité, eh bien, ce sont finalement ce sont les exactement les mêmes, c'est exactement la même argumentation que ceux qui pourfendaient les vagabonds à la fin du 19e. Pourquoi c'est exactement la même chose? Ben, comment dire, c'est des personnes qui, donc la problématique des trappes à inactivité, ça consiste à dire, oui, vous comprenez, avec le RMI, les allocations de chômage, les personnes ne veulent pas travailler. Bon, donc c'est bien l'idée que les chômeurs sont responsables de leur situation, d'accord? Bon, ce qui revient à nier le chômage, puisque par définition, je l'ai dit, le chômage est une responsabilité sociale et non pas une relève de la responsabilité sociale et non pas d'une responsabilité individuelle. Bon, alors ça c'est l'argumentaire. Maintenant les faits. Ben, les faits nous montrent que de toute façon cette argumentation, comment dire, ne tient pas la route. C'est-à-dire toutes les études montrent que d'abord, il faut le rappeler, le chômage, c'est pas, comment dire, on ne vit pas bien au chômage. L'écrasante majorité des chômeurs, d'abord, ne relève pas du système d'assurance chômage, ils ne bénéficient pas de ce qui s'appelle aujourd'hui l'ARE. La majorité des demandeurs d'emploi ne bénéficient pas de l'ARE. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au mieux, ils bénéficient des minima sociaux. Les minima sociaux, c'est l'ASS ou le RMI. Vous avez bien compris, ça représente de l'ordre de 2000 à 2500 francs par mois. Et on ne peut pas décemment dire qu'il y a aujourd'hui dans ce pays des millions et des millions de personnes qui acceptent volontairement de vivre avec 2500 francs par mois. C'est une marque de mépris d'oser affirmer ça qui est absolument colossale. Donc toutes les études montrent que non seulement le niveau de vie des chômeurs est particulièrement faible, à cause de ces montants, comment dire, d'indemnisation très faibles, mais on pourrait tirer le fil. Donc toutes les études montrent, y compris que les chômeurs n'ont qu'une seule préoccupation, qui est de retrouver un emploi. Et de ce point de vue-là, toutes les thèses ultra-gauche sur la fin du travail, eh bien, comment dire, sont des thèses intellectualistes, mais qui ne parlent pas de la réalité concrète, qui est la volonté des chômeurs, ne serait-ce que d'être utile au monde, la volonté de travailler. Et puis d'autre part, on pourrait mettre ça en parallèle avec le fait que finalement la société aujourd'hui, face à ce drame social qu'est le chômage, eh bien la société finalement consacre très peu de ressources pour indemniser les chômeurs. C'est-à-dire que les chômeurs, ce sont des millions et des millions de personnes. Les RMI, c'est plus d'un million de bénéficiaires, plus de 2 millions de personnes qui en bénéficient via les ménages. Mais en fait, quand on regarde les sommes que cela représente en indemnisation, c'est particulièrement faible. Il faut savoir que les minima sociaux, c'est RMI, ASS, allocation adulte handicapé, minimum vieillesse, ça représente moins de 3% aujourd'hui du PIB. Bon, le chômage, le régime d'indemnisation du chômage, ça représente moins de 10% des dépenses de protection sociale. C'est-à-dire qu'en fait, on a des millions de personnes qui vivent avec ces filets de sécurité vraiment minimaux, pour le coup, mais en sachant que ça représente peu de choses. Et donc, la vraie question qu'il faut poser, c'est au contraire celle de la revalorisation de toutes ces allocations. Et vous avez bien compris qu'aujourd'hui, on est exactement dans la procédure inverse, puisque la nouvelle convention qui a été signée, la nouvelle convention inédite qui a été signée, va au contraire aboutir au 1er janvier 2004 à une baisse absolument drastique des droits des chômeurs.
Des sous et des hommes, toujours avec Christophe Rameau. Alors, par exemple, il y a Rocard qui disait dans Le Monde du 19 juin, dans un article absolument remarquable à tout point de vue, que finalement le capitalisme avait gagné, qu'on était dans une économie mondialisée sans frontières, qu'il fallait en prendre acte et que ses petits camarades de gauche devraient bien le faire. Est-ce qu'effectivement le fait qu'il y ait cette économie mondialisée ne nécessite pas obligatoirement le fait de renoncer à cet état social que vous défendez depuis déjà 2 émissions?
Je ne sais pas si l'article de Michel Rocard était remarquable. Il était remarqué. Bon, très bien. Bon, la mondialisation. Alors là, comment dire, on est sur un gros morceau. C'est-à-dire que moi, je pense en fait, je vais peut-être prendre les auditeurs à rebrousse-poil là. Bon, mais ça va les réveiller. Mais je fais partie de ceux qui considèrent que la mondialisation, c'est d'abord à nouveau quelque chose qui joue sur le registre d'abord des représentations. C'est-à-dire que ce qui est en jeu à travers la mondialisation, c'est une certaine représentation qu'on cherche à instiller dans le corps social, dans les têtes de chacun. Et c'est pour ça, je vais tout de suite à la conclusion, avant de développer, que moi je suis contre la mondialisation. Alors, quel est l'enjeu? Ce qu'on cherche à instiller dans les têtes de chacun à travers la mondialisation, c'est l'idée que les principales décisions en matière économique et sociale, qui sont prises dorénavant, sont prises d'emblée à l'échelle du monde. C'est-à-dire qu'on laisse entendre maintenant que le sort de chacun, le sort immédiat de chacun, il se joue quotidiennement, d'abord et avant tout, à l'échelle du monde. Et si on y réfléchit bien, en fait, cette trame-là, ça aboutit à quoi? Ça aboutit, bien entendu, à dessaisir le peuple. Parce que le peuple, à cette échelle-là, à l'échelle du monde, il n'a aucune prise, par définition. Il n'y a que de joyeux oseaux doux rêveurs, là, pour le coup, qui parlent de citoyenneté mondiale. On pourrait y revenir, mais enfin, ce sont des thèses qui ne tiennent pas compte du fait que pour que le pouvoir du peuple puisse s'exercer, il faut qu'il existe un cadre institutionnel dans lequel il puisse s'exercer. Il n'y a pas de citoyenneté mondiale, tout simplement parce que pour être citoyen, il faut être vivre en République. La citoyenneté, c'est pas un sentiment. J'ai des amis qui se disent citoyens du monde, mais je leur dis toujours, mais la citoyenneté, si on le prend au sens fort, si on prend la citoyenneté au sérieux, la citoyenneté, c'est pas un sentiment. C'est la République qui institue les citoyens. Si on vit pas en République, on n'est pas citoyen. Et comme il n'y a pas de République mondiale, ben, il n'y a pas de citoyenneté mondiale. Il peut y avoir des contre-pouvoirs, des travails des ONG, des associations, qui sont tout à fait utiles. Il ne s'agit pas du tout de nier ça. Et je ne nie pas le fait qu'il y a nécessité de politique internationale. Mais ce qui est en jeu à travers la mondialisation, c'est autre chose. Ce qui est en jeu à travers la mondialisation, c'est d'abord et avant tout, le fait qu'on véhicule, c'est un peu complémentaire à la notion de risque dont je parlais la semaine dernière. Avec le risque, le MEDEF essaye en permanence de véhiculer une représentation ou de l'insécurité généralisée. Parce que quand on a une population insécurisée, eh bien on a une population docile. Ben, la mondialisation, c'est parfaitement complémentaire de ce point de vue-là. La mondialisation, on laisse entendre aux citoyens qu'ils n'ont plus aucun pouvoir. Et donc on revient sur l'idée du pouvoir du peuple, tout simplement, à travers l'élection de ses représentants. C'est ça qui est en jeu à travers la mondialisation, et c'est pour ça que moi, je suis contre la mondialisation, je suis pas altermondialiste, hein. Je sais que c'est un terme particulièrement à la mode maintenant dans la gauche critique, ben moi, je suis pas altermondialiste, je suis internationaliste, je suis pour des politiques internationales sur toute une série de domaines, hein, qu'on ne s'y méprenne pas, mais la notion d'altermondialisation, c'est une notion qui, quelque part, conforte cette idée, qui est une idée du capital, de mon point de vue, selon laquelle, eh bien, les principales décisions se prennent à l'échelle du monde, c'est-à-dire une échelle où, par définition, on peut peut-être y revenir, on peut peut-être creuser tout ça, mais par définition, le peuple n'a aucune prise.
Mais alors, vous appelez quoi le retour des nations ?
Oui, tout à fait. Allez, allons-y, franchement. Et d'ailleurs, dans le mouvement altermondialiste, surtout en France peut-être, il y a une grande confusion intellectuelle sur la question de la nation. Je vais à l'essentiel tout de suite. C'est-à-dire, ma conviction, c'est que aujourd'hui, il y a une partie de la gauche qui est prisonnière du schéma intellectuel du Front National sur la question de la nation. C'est-à-dire qui pense la question de la nation exactement de la même manière que le Front National. Et comme, à juste titre cette fois-ci, eh bien, cette gauche-là n'aime pas le Front National, comme moi, eh bien, elle rejette la nation. Comme elle a la même définition que la nation que le Front National, eh bien, comme elle n'aime pas le Front National, elle rejette la nation. Alors, qu'est-ce qui est en jeu dans tout ça? La conception du Front National de la nation, c'est quoi? Ben, c'est l'idée de référer la nation aux origines, au sang, à la religion, à l'ethnicisme, pour aller vite. Donc, c'est une conception racialiste de la nation. Bien entendu, je suis opposé à cette question. Mais la nation, comme toute construction politique, eh bien, c'est une construction politique. C'est-à-dire que ça peut s'investir d'un contenu différent. Et à cette conception ethniciste du Front National, je pense qu'il est nécessaire d'opposer une autre conception, qui est une conception citoyenne, qui est l'idée que la nation repose sur la citoyenneté. C'est pour ça qu'il ne faut pas dissocier, qu'il est important de ne pas dissocier les deux. La nation repose sur la citoyenneté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui vit sur un territoire donné, dès lors qu'il vit en République, encore faut-il qu'il vive en République, c'est pas gagné, bien entendu, c'est un combat, toujours à recommencer, mais dès lors qu'il vit en République, dès lors qu'il vit sur un territoire où existe une République, eh bien, il est citoyen de cette République, et en étant citoyen de cette République, par-delà ses origines, hein, qu'il s'appelle Mohamed ou je ne sais quoi en France, eh bien, il est citoyen français au même titre que moi. Totalement au même titre que moi. Bon, alors ça ne veut pas dire d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai le temps de développer ce point, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ailleurs une certaine dialectique, hein, entre cette conception culturaliste, ethniciste de la nation et cette conception citoyenne. Vous me laissez le temps de développer ce point ?
Oui.
Bah, c'est quoi la conception dialectique, si vous voulez ? Moi, je fais partie de ceux qui défendent donc une conception citoyenne de la nation, vous avez bien compris. Bon, par opposition à la conception racialiste, ethniciste, culturaliste de la nation qui est portée par l'extrême droite. Et dont est prisonnière, à mon avis, une partie de la gauche critique, ce qui l'a conduit à rejeter la nation. Mais il y a une dialectique entre les deux. Pourquoi ? Parce que les républiques ne tombent pas du ciel. Les républiques ne tombent pas du ciel, c'est-à-dire que les républiques, bien entendu, pour qu'il y ait la république, c'est-à-dire que la république, c'est l'idée que le pouvoir, c'est la démocratie forte, si vous voulez, c'est l'idée que le pouvoir revient au peuple à travers l'élection de ses représentants. Ça pose plein de problèmes, il y a des problèmes de bureaucratie, etc. Mais peu importe, il y a quand même cette boussole qui est l'idée que le pouvoir doit revenir au peuple. C'est le principe un homme, une voix, et non pas une action, une voix, comme nous propose le capitalisme actionnarial aujourd'hui. Bon, et donc pourquoi il y a une certaine dialectique ? Parce que, je vous l'ai dit, les républiques tombent pas du ciel. C'est-à-dire que les républiques, elles sont nécessairement inscrites dans des territoires qui ont été marqués historiquement par leur cortège de guerre, y compris avec leur volet ethniciste. Mais tout l'enjeu, justement, c'est cela. C'est-à-dire, c'est de, comment dire, de savoir porter cette histoire, ça veut pas dire l'assumer, hein, mais savoir porter cette histoire pour lui donner un autre contenu. Plus précisément, prenons le problème par un autre sens. La nation citoyenne, ça se repose sur le pouvoir du peuple. Mais pour que le pouvoir du peuple puisse s'exercer, il faut un langage commun. Le pouvoir du peuple, ça suppose qu'il y ait une délibération politique. Ça suppose de la démocratie politique. Pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait un langage commun. Et donc, de facto, ça suppose bien souvent, concrètement, une langue commune. Il y a quelques pays, par exemple, si on prend l'Algérie avec les Kabyles, où il y a un sentiment d'appartenance nationale commun, y compris aux Kabyles. Les Kabyles sont fiers d'être Algériens. Mais si on accepte ces pays, ce pays-là et quelques autres, en fait, on se rend compte que faire fonctionner une démocratie avec plusieurs langues, tout simplement, c'est quelque chose de très compliqué, tout simplement parce que la démocratie, ça suppose de la délibération. Donc là, on est bien renvoyé à un volet culturaliste. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a bien une dialectique entre les deux. Il faut pas être, comment dire, je suis un républicain, mais pas un républicain abstrait. Il faut savoir ancrer la République, notamment en chair et en os, dans des territoires donnés par l'histoire. Mais l'enjeu, c'est de savoir quelle est la boussole. Est-ce que la boussole, c'est le pouvoir des hommes, par-delà leurs origines, par-delà le legs historique, ou est-ce que c'est une conception ethniciste de la nation? Et je reste persuadé que ceux qui embrassent la mondialisation, y compris au nom de l'altermondialisation, quelque part, ont un profond mépris de la nation, pour la bonne et simple raison, je l'ai déjà dit, que je pense que ces personnes sont prisonnières du schéma intellectuel du Front National.
J'ai suivi avec passion, Christophe Rameau, ce que vous disiez, parce que ça chamboulait un peu les représentations qu'on pouvait avoir. Mais si on essaye de faire, j'aimerais bien qu'on essaye de faire un pont rapide entre finalement État social et État nation. Quel lien entre les deux ? Quelle nécessité peut-être d'un lien entre les deux ?
Ah bah oui, tout à fait. Le lien, il est organique, il est direct. C'est-à-dire que l'État social, hein, on a vu ça la semaine dernière, l'État social, c'est au moins quatre piliers. C'est-à-dire service public, droit du travail, protection sociale, et puis des politiques économiques interventionnistes pour soutenir notamment les créations d'emplois. Bon, et donc l'État social, c'est ce qui donne la cohérence à ces quatre piliers. Et c'est ce que moi je propose d'appeler la révolution en fait du XXe siècle, hein, celle qui nous a légué quelque chose en positif, c'est-à-dire qui existe toujours aujourd'hui, même si depuis 20 ans tout ceci est grignoté par les néolibéraux. Mais il y a beau reste. Et l'État-nation, c'est rien d'autre que le fondement politique de l'État social. Et tout ceci s'explique aisément. À partir du moment où l'État-nation républicain, je ne parle pas de l'État-nation ethniciste, hein, mais à partir du moment où l'État-nation repose sur des principes républicains, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, bien entendu, à partir du moment où on a cela, où on a cette situation-là, on conçoit tout à fait que le peuple ait réussi à imposer, notamment à travers les élections, la constitution progressive d'une série de garanties sociales qui forment ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'État social. Donc il y a un lien direct entre les deux, historiquement. Et il y a un lien direct entre les deux, aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, si le capital n'a de cesse d'agiter la mondialisation comme une contrainte indépassable pour détruire l'État social, bien entendu, le capital est dans son intérêt. C'est-à-dire le capital a compris, de son point de vue, que pour casser l'État social, il fallait remettre en cause son fondement politique, c'est-à-dire l'État-nation républicain. Et de ce point de vue-là, ce qui est en jeu à travers la mondialisation, c'est d'abord ça. Alors on pourrait évoquer, y compris quelle réponse on peut apporter par rapport à ça. J'ai dit tout à l'heure que moi j'étais pour l'internationalisme, mais j'étais contre la mondialisation. Bon, il y a un autre, donc je suis pour, comment dire, faire rebondir au contraire l'État social, alors que les libéraux proposent de le réduire, de l'abattre. Bon, mais il y a une autre dimension qui est par exemple à l'échelle européenne. Je pense qu'à l'échelle européenne, aujourd'hui, ce qui est en jeu, on va le voir dans les prochains mois, notamment à travers le débat sur la convention. Mais ce qui est en jeu, c'est comment à la fois construire l'Europe, parce que je suis favorable, bien entendu, à la construction européenne, sans remettre en cause, sans que ça se traduise par une régression en matière d'État social. Et là, ce qu'on peut dire, c'est relativement simple, si vous voulez, c'est que il faut construire l'Europe sociale. Mais construire l'Europe sociale, ça ne peut pas se faire si on n'accepte pas de considérer que pour les pays les plus développés en matière sociale, notamment la France, mais aussi l'Allemagne et les pays scandinaves, par exemple, le socle du droit social, ça doit rester le droit national. Pourquoi ? Parce qu'à l'échelle européenne, construire l'Europe sociale, ça ne peut être que deux choses étroitement liées. c'est d'abord empêcher les pratiques de dumping social, et puis permettre la convergence par le haut des pays les moins avancés, en sachant qu'avec l'élargissement, les pays de l'Est, les pays d'Europe de l'Est, il y a des écarts de revenus par tête d'habitant qui sont absolument colossaux. Donc on ne pourra pas demain imposer le SMIC français, quand je dis demain, c'est pour plusieurs décennies. On ne pourra pas avoir, en Lituanie, en Bulgarie, on ne pourra pas avoir l'équivalent du SMIC français avant plusieurs décennies. Il faut être lucide de ce point de vue-là. C'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, par exemple, il faut construire un droit social européen, mais qui ne se substitue pas au droit national. C'est-à-dire qui se substitue au droit national que s'il apporte un plus. Et donc, par exemple, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les travailleurs français ou allemands, il ne faut pas leur mentir. Il ne faut pas dire que grâce à l'Europe, ils vont avoir des droits en plus. C'est faux. Sauf sur peut-être quelques domaines peu défrichés, la lutte contre les discriminations, et encore, on a vu ce qu'on a pu introduire en France au nom de l'égalité homme-femme, on a banalisé le travail de nuit. Bon, mais passons là-dessus. En dehors de terrains peu défrichés par le droit national, il faut avoir conscience du fait que l'Europe peut apporter beaucoup aux travailleurs français. Elle peut apporter le fait qu'on construise une Europe sans qu'il y ait de dumping social de la part des pays les moins avancés. C'est déjà beaucoup en termes de risque de délocalisation, etc. Mais au-delà de ça, le droit social européen n'apportera aucune règle substantive qui apportera un progrès pour le travailleur français ou allemand. Et donc il est important pour tous ces travailleurs de dire que le socle du droit social reste le socle national. Si vous voulez dire autrement, il faut que les directives européennes en matière de droit social ne s'appliquent que si elles apportent un plus pour les travailleurs. C'est ce qu'on appelle un des grands principes du droit du travail en France, qui est le principe de faveur, qui est l'idée qu'une règle ne s'applique que si elle apporte un plus pour le travailleur.
Bien là, j'ai qu'une seule envie, c'est de retrouver Christophe Rameau tout bientôt. Malheureusement, ce sont les vacances, donc on va pas pouvoir, mais on se donnera rendez-vous peut-être bien en septembre. Je vais essayer de concocter ça. Il fait la tête. En tous les cas, pour cet été, vous pourrez nous écouter un certain nombre de rediffusions, notamment, je pense, repasser celle de fête avec José Bové l'année dernière, oui, en août dernier. Vous pouvez trouver sur le site de Dessous, donc c'est www.dessousetdeshommes.org avec un tiret entre chaque mot, l'adresse à laquelle vous pouvez écrire à José Bové, ainsi que l'adresse du président de la République, auquel vous pouvez marquer tout notre mécontentement. Je tiens encore une fois à remercier l'ensemble de toute l'équipe qui m'a aidé pour faire des émissions, mes webmasters, mais aussi les retranscripteurs. Je ne peux pas tous les citer parce qu'on a été à un moment 17. Il y avait Stéphane, il y avait Hélène, il y avait Thomas pour les plus fous. Et si vous voulez rejoindre notre équipe, n'hésitez pas à repasser à nouveau par le site www.dessousetdeshommes.org. Bonnes vacances et puis à la rentrée.